Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmaouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment réussir un cancer au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Au Mali, on assiste chaque jour à l'organisation des concerts par des acteurs culturels. Artistes de renommée ou en herbe, beaucoup comptent sur ces spectacles pour ne pas disparaître de la scène, aussi pour se faire de l'argent. D'importants moyens de communication sont mis en place pour l'organisation de ces concerts-là, notamment les publicités sur les radios, sur les télévisions, sur les réseaux sociaux et la recherche de mécènes. Mais beaucoup estiment que l'organisation de ces concerts ici au Mali se heurte à des difficultés. Et des acteurs culturels estiment que ces stratégies marchent, mais elles ne garantissent pas pour autant l'organisation ou la réussite d'un concert au Mali. Pour en parler, nous avons invité Issiaka Badi Ankoulé, l'enfant Peul, il est auteur et compositeur. Eladji Amadou Diop est animateur et producteur. Abba Boukoum est avec nous, il est acteur culturel. Issouf Kone est journaliste culturel. Je suis Mariam Koulé. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
D'entrée de jeu, la première question, nous allons la poser à M. Issiaka Ba. Comment s'organisent les concerts au Mali?
Merci beaucoup pour l'invitation et la question. Bon, comment s'organisent les concerts au Mali? C'est une question très épineuse parce qu'il y a certains concerts que l'on voit. Je me demande effectivement comment est-ce qu'ils l'ont organisé. Il y a les professionnels et les personnes... des professionnels aspirants, des personnes qui souhaiteraient devenir des professionnels. Donc il y a vraiment tout type de concerts organisés.
Comment ça s'organise de façon professionnelle?
De façon professionnelle, d'accord. Dans ce cas de figure, l'organisation d'un concert professionnel, il y a des procédures qui existent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de recréer de nouvelles règles. C'est tout simplement trouver un artiste qui a un certain talent, qui a une certaine reconnaissance, qui a un public qui le suit déjà, et ensuite d'annoncer le spectacle, de communiquer par les canaux qui existent à travers les réseaux sociaux, la télé, la radio, la presse écrite, l'affichage et également les fan clubs qui soutiennent l'artiste, qui vont servir d'ambassadeurs, d'ambassadrices et de relais de communication et d'information. Et ensuite avoir une équipe de professionnels pour la répétition, la préparation, c'est un spectacle. La mise en scène, les tenues, les chorégraphies, l'ingénierie son, la composition, les arrangements sur mesure pour le live également, et avoir un décor sans lumière pour que les gens y vivent un moment de rêve et qu'ils partent avec un bon souvenir, que l'espace soit sécurisé, bien sonorisé, les gens bien accueillis, qu'ils aient tout ce qu'il faut, au moins le minimum, et ensuite qu'ils puissent rentrer heureux et qu'ils aiment encore plus l'artiste qu'avant le concert. Parce qu'un concert mal organisé, tu viens voir ton artiste après, tu es déçu, tu rentres à la maison. Donc grosso modo, pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sans aller dans les détails, c'est plus ou moins comment il faut organiser un concert. Avoir un artiste qui est plus ou moins connu, apprécié, qui a un public, organiser le spectacle de manière sérieuse, et ensuite en informer autant que faire se peut le maximum de personnes, et les accueillir convenablement dans des conditions optimales, et puis tout le monde est heureux.
Alors, Monsieur Abba Boukoum, les concerts auxquels on assiste aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette organisation professionnelle dont Monsieur Ba vient d'évoquer?
Bon, merci déjà pour l'invitation. C'est sûr que ce n'est pas réellement ce que les organisateurs d'aujourd'hui suivent, enfin la majorité. Parce que, comme il l'a dit, on ne va pas recréer la roue. Il y a un long processus qu'il faut suivre pour bien organiser un spectacle. Mais bon, malheureusement, avec les réseaux sociaux et voilà, les réseaux sociaux, les artistes maintenant, ils font juste un morceau, deux morceaux. Ils ont un public, ils ont la facilité de communiquer sur leur événement, même si c'est pas bien organisé. Déjà qu'ils ont des fans. Donc directement ils organisent, mais à la va-vite quoi. Mais sinon un concert en réalité il faut des personnes expérimentées ou sinon même une agence d'événementiel, voilà, qui peut suivre tout le processus et faire un bon spectacle, parce que il s'agit pas de venir chanter en playback ce qui a été enregistré en studio, venir directement chanter ça c'est pas un concert, ça c'est juste voilà. Mais bon, malheureusement on fait avec, mais la plupart des artistes qui sont dans dans l'optique d'organiser ces concerts-là, ils font un concert, deux concerts, après c'est fini, on ne les voit plus. Parce que ça n'a pas été bien organisé, le public n'a pas besoin de venir voir, écouter ce qu'ils ont déjà écouté. Donc c'est ce qui joue un peu plus sur... Donc la plupart des concerts, surtout pour les jeunes, hein. Maintenant, pour les vieux comme les Salifs et autres, ça c'est vraiment une grosse équipe qui rentre en jeu pour l'organisation. Donc, c'est comme ça un peu.
Alors, monsieur Eladi Diop, comment est-ce que vous appréciez l'organisation des concerts d'aujourd'hui ?
Merci beaucoup pour l'invitation et cette question. Donc, je vais rejoindre mes prédécesseurs dans le sujet. Il y a de tout. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage des spectacles à Bamako et même dans la région, on a des spectacles très très bien organisés chez des jeunes et des spectacles très très mal organisés chez des anciens. Voilà, donc c'est de tout part. Donc après, pour que cela puisse bien se faire, bon, comme on a dit, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution des nouvelles technologies et même sur le plan social fait que on n'a pas forcément besoin de passer par les canaux habituels qui caractérisent le secteur des spectacles. Sinon, dans le temps, il fallait passer forcément par la Direction nationale de l'action culturelle, il fallait avoir son aval, il fallait passer par le Bureau malien des droits d'auteur, après il fallait avoir un agrément pour pouvoir faire un spectacle, et les détenteurs d'agrément, ils n'étaient pas au nombre de 20, ils étaient à peu près une quinzaine, et c'était des personnes qui avaient donné gage de bonne foi, d'un certain sérieux, mais aujourd'hui, on peut se lever, les espaces de spectacle se sont multipliés, et bon, on y accède... par les voies qui ne sont pas forcément les voies qui étaient indiquées au début. Donc voilà.
Alors, M. Youssouf Kone, quand vous participez ou bien quand vous assistez à un concert aujourd'hui, est-ce que vous passez un bon moment, comme l'a dit M. Ba?
Je dirais oui, parce que pas mal de concerts auxquels personnellement j'ai assisté, voilà. Heureusement, ça s'est bien déroulé. Mais il y a quelques rares fois où malheureusement, ça ne se déroule pas comme il se faut. Et je pense que le point qu'on doit beaucoup pointer, c'est surtout l'aspect sécurité. On en parle peu, mais c'est très important lors de l'organisation d'un concert. Tu vois, si on est là à parler d'un concert, en bien ou en mal, c'est parce qu'on a envie. Et donc, c'est très important de prendre cet aspect-là. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit. Je pense que c'est pour ce qui concerne la manière dont on doit organiser un concert, ils ont parlé de toutes les étapes. Mais l'aspect sécurité, il est très important. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup prendre en compte. Voilà, déployer le maximum de forces de l'ordre, bien barricader et l'espace où le concert doit se dérouler. Parce que c'est surtout, pour moi, en tout cas, je pense, quand la sécurité est au rendez-vous, on vit un bon moment. Donc, j'ai eu la chance, pour revenir à la question, de participer à beaucoup de concerts où, effectivement, il y avait quand même de la sécurité. Donc, tout s'est bien passé. Mais il y a quand même quelques rares fois où c'était pas... C'était désagréable, malheureusement. Il y a un concert qui s'est passé au Palais il n'y a pas longtemps de cela. C'est un nouveau groupe que je ne connaissais pas là. Voilà, j'étais de passage là, mais j'ai vu que c'était pas du tout bien. Il y avait pas mal de personnes qui ont parlé dehors, comme quoi des choses avaient été cassées. Par la suite, j'ai vu le retour sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des cas comme ça qui existent. Donc, l'aspect sécurité, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus lors de l'organisation des concerts.
Des aspects à revoir sur l'organisation des concerts au Mali. Vous êtes du même avis?
Bon, je dirais que, vu que vous avez posé la question, on est obligé de souligner ces différents points. Mais d'une manière générale, c'est assez positif. Parce que je ne voudrais pas noircir le tableau. Comme l'a dit M. Kone, il y a beaucoup de spectacles qui se passent bien. Mais pour pouvoir progresser, même si c'est 1%, 2% où ça ne se passe pas bien, on est obligé de pointer du doigt les quelques pourcentages où ça ne se passe pas bien. Mais c'est toujours... Je pense que la plupart des gens, les acteurs dans le domaine, ils se sont rendus compte que ils sont obligés de se former, de se professionnaliser, d'aller voir ce qu'ils savent faire et d'apprendre avec ces personnes-là. Parce que lorsqu'on n'est que 15, comme l'a dit Amadou Diop, et qu'il y avait des filtres, c'était des systèmes pour avoir une certaine garantie que les détenteurs d'agréments étaient des professionnels ou en tout cas des gens qui cherchaient à travailler de manière correcte, sinon ils allaient perdre cet agrément qui leur donnait une certaine exclusivité. Maintenant, n'importe qui peut faire des spectacles. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bon pour le business, le domaine, l'activité culturelle et pour les spectateurs, les fans. Mais à condition que ce soit encadré quand même. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi, sinon ça devient le chaos. Maintenant, le fait qu'il y a quelques professionnels qui font du très bon travail Excellent travail, même par rapport aux normes internationales, il n'y a pas de problème. Le Mali n'est vraiment pas en retard. Les autres sont obligés de se mettre à la même hauteur. Maintenant, il y a également l'artiste, comme l'a dit Abba, il a raison. Tu as des fans qui te kiffent, tu leur dis, on fait un concert dans mon garage, tout le monde va venir. Mais ils vont venir qu'une ou deux fois, parce qu'ils t'ont vu, ils ont été déçus. Ils ne vont pas revenir. Le fait, c'est que tu vas faire un one-shot. C'est comme la mentalité du buzz. Si tu fais le buzz, c'est bien, mais tu ne vas pas faire une carrière de 20 ans avec le buzz,
on
non.
Aller en venir.
Exactement. Oui. Donc, du coup, ce qu'Abba dit, lorsque les gens, ils te kiffent, ils viennent te voir une première fois, deux fois, parce qu'ils te kiffent, il faut que tu leur donnes quelque chose à la hauteur de ta réputation. Si tu ne leur donnes pas ça, tu les as perdus, en fait.
Mais qu'est-ce que l'artiste doit faire en amont, avant l'organisation du concert? Comment il doit se préparer?
Avant l'organisation, je pense d'abord, comme on l'a dit, il faut d'abord travailler avec les personnes qui sont expérimentées. Parce qu'un concert, ce n'est pas seulement venir chanter. Il y a le matos qui doit accompagner, il y a la lumière. Il faut, en fait, un concert, c'est vraiment un événement. Quand on organise un concert, il faut que ça soit un spectacle. Et le spectacle, il y a des jeux dedans, Job en sait beaucoup, c'est surtout ça. Mais en plus de ça, il y a aussi la date. Par exemple, quand vous organisez un concert pour les enfants qui ne sont pas salariés, il ne faut pas prendre par exemple une date en mi-mois. Parce que ça trouve qu'ils prennent l'argent avec des parents et autres qui n'ont pas encore reçu leur salaire et tout. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, il y a la période. Peut-être, sauf si ça coïncide sur des périodes de fêtes, là, c'est autre chose. Donc, et il faut travailler avec des professionnels, surtout. Il faut travailler avec des professionnels. Il ne faut pas que ça soit juste mon petit grain qui organise mon concert. Sinon, ça peut... Même le concert dont il a évoqué, c'est un groupe qui a organisé et MSD, je pense, c'est ça le groupe, le nom du groupe. Et il y a d'autres concerts qui ont encore échoué parce que les gens qui viennent, souvent, ils ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé ou souvent, l'artiste n'a pas eu le temps de prester, l'occupation scénique n'était pas à la hauteur. Donc, du coup, tout ça, ça fatigue, quoi. Donc,
mais voilà. Quand est-ce qu'un artiste doit décider de faire un concert ou bien quand est-ce que les acteurs culturels doivent avoir confiance à un artiste pour le mettre sur scène et qu'il fasse un concert?
Pour répondre à cette question, déjà, qu'est-ce qu'un artiste? Voilà. Donc, et comment est-ce qu'il doit grandir, se développer, etc. Donc, je pense que pour répondre à cette question, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le plan de carrière pour un artiste. Et après, il y a la direction artistique de tout ce que l'artiste produit. Le plan de carrière, c'est quoi? C'est un artiste qui se dit, il y a un producteur derrière ou l'artiste est en autoproduction. Il se dit, je commence aujourd'hui, en janvier, et en décembre, je fais un palais. Donc maintenant, avant d'arriver au palais, il y a des actions. Je sors un clip à telle date, je rentre en studio en période de création à telle date, où je me retire et je commence à écrire, je rentre en studio à telle date, je fais des photos à telle date, je fais des plateaux télé à cette date, ainsi de suite. Et voilà, ça se construit comme on décide de construire une maison, comme on décide de lancer une marque, etc. Parce que l'artiste, il faut le considérer comme un produit, comme du pétrole ou comme du diamant, voilà, parce que c'est des perles, ils peuvent nous amener tout ça. Donc, il y a cette construction à faire là. Donc, ce n'est pas. Il y a certains artistes qui ont cette capacité. Aujourd'hui, un monsieur comme Amkoulel a cette capacité-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dépasse la sphère que de l'artiste. Il a toujours été en autoproduction, il développe d'autres choses, etc. Mais tous les artistes n'ont pas cette faculté-là. Donc, lorsque vous n'avez pas cette faculté, il faut savoir vous entourer de personnes qui peuvent vous accompagner. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que un spectacle se passe bien et comment cela s'organise? Je vais rebondir sur ce qui a été dit par M. Ababoukoum. Il y a tout un aspect qu'il faut prendre en compte. Il y a le moment, il y a le lieu, il y a les aspects de la direction artistique. C'est-à-dire que vous décidez qu'à un moment donné, ma chanson parle de cela. Donc, les gens l'ont déjà entendu. Peut-être qu'il va falloir l'illustrer sur scène. Voilà, il va falloir l'illustrer sur scène.
Ce travail se fait généralement au Mali lors des concerts.
Si vous avez eu l'occasion d'assister au dernier concert de Tata Pam, Voilà, donc vous allez savoir de quoi je parle. Mm-hmm. Le dernier concert de Tata Pondé qui s'est passé au Palais de la Culture, c'était pas un concert, c'était un spectacle monté de A jusqu'à Z. Mm-hmm. C'est-à-dire chaque morceau, les morceaux étaient introduits. Déjà, on a commencé avec l'hymne national, tout un symbole. Et après, il y a eu des interventions, notamment celui de Ankoulel, à un moment précis du spectacle. Rien n'est improvisé. Les autres artistes de la même génération sont arrivés à un certain moment. Et tout cela est préparé. Il y a eu un mois de préparation, de répétition, d'écriture en amont. Donc c'est comme ça que cela se prépare. Récemment, le plus grand spectacle qui a fait le buzz partout, c'est la tournée de Beyoncé, où des artistes ont quitté les États-Unis pour aller la suivre en Europe. Mais quand vous voyez ce spectacle, vous vous rendez compte que et les tenues, et la lumière, et la chorégraphie, et la mise en scène de sa fille pour la première fois, des stylistes ont été engagés, etc. Il ne faut pas peut-être engager les mêmes moyens parce que nous n'en avons pas, mais nous disposons des choses à notre échelle, comme nous l'avons fait sur le spectacle de Tata Pondé. Et pour en revenir, je vais peut-être, vous en souvenez pas, le premier concert du collectif Ghetto Kafri, au Palais de la Culture, ça a été organisé par, en collaboration avec la structure de M. Ismaël Ballo, et on l'avait couplé avec Raga Battle Motar Koudrou Clash Party. La première fois où les Ghetto Kafri ont été présentés au public, et ça s'est passé sous la pluie, ils avaient un buzz monstre. Le spectacle a été introduit par ATT Junior, qui a surfé sur la vague d'un clip qui avait été fait, qui s'appelait Pankapruti. Et comme c'était un collectif, mais dans ce collectif, il y avait que Memo et Gaspi qui étaient les plus connus, mais que c'était un collectif. Donc c'est un spectacle qui a été monté du moins connu au plus connu. Et à chaque interlude, il y a quelqu'un qui arrivait pour présenter, etc. Pour présenter. Et le spectacle s'est terminé avec Memo et Gaspi, avec ATT Junior qui arrivait en policier. Donc il y a du jeu. Et plus récemment, le dernier concert de Nigafama, ils ont à la place de l'indépendance, ils ont installé une espèce de kiosque de vente où on prend le café dans la rue. Donc c'est ça la direction artistique. C'est vers cela qu'il faut aller. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai tenu à rétablir, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans un conflit générationnel, les anciens font bien les choses, les jeunes le font bien. Moi, aujourd'hui, je peux dire que les plus grandes innovations sur scène ont été faites au niveau de la culture urbaine, dont je me revendique, mais aussi de la jeunesse, dont c'est le rôle d'innover aussi. Bien sûr, voilà. Même s'il y a on va dire que les choses qui ont fait le plus de bruit aussi sont arrivées de la jeunesse, il faut le noter.
Et très bien. Le choix du lieu, est-ce que c'est important?
Le choix du lieu, oui, il peut être important, il peut être déterminant parce que quand tu connais ton public, tu sais où l'avoir. Quelqu'un qui cible l'Institut français, c'est pourquoi il a ciblé l'Institut français, parce qu'il y a un public bien défini qui va là-bas. Tu vois, moi qui travaille un peu dans le domaine du théâtre, voilà, je parle sous le contrôle de Mkoulel. Tu vois, aujourd'hui, le théâtre au Mali, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe, quoi. Je ne parle pas du côté bas, qui est connu comme ce théâtre-là qui se déroule à l'air libre. Mais aujourd'hui, le théâtre qu'on a importé de l'Europe, c'est un luxe. Parce qu'il faut le faire dans une salle.
C'est assez élitiste.
Justement, voilà. Qui demande beaucoup de moyens, un endroit bien, avec la sonorisation, tout ce qu'il faut. Tu vois, tout le monde n'a pas accès à ça. Donc, quand je décide de faire un spectacle de théâtre dans un endroit comme l'Institut français, je sais qu'il est minimum à 10 000 francs. Tout le monde n'a pas 10 000 au Mali. Voilà. Et nous, on a bossé sur un projet avec une association qui s'appelle Culture en Partage. On a décidé comme ça d'aller dans les quartiers. Donc, on recrute des comédiens, on bosse avec eux. Et au lieu que ce soit le théâtre, eux qui viennent au théâtre, c'est le théâtre qui va à eux. Ouais. Donc, on a compris que pour toucher telle cible, il fallait qu'on choisisse tel lieu. Et quand c'est un spectacle qui a été fait avec de gros moyens et qu'il faille forcément que de l'argent vienne en retour, on est obligé de le faire à l'Institut français. Et là, on sait que quand on le fait ici, on peut avoir des ministres, des directeurs de sociétés, etc., des gens qui sont quand même aisés, entre guillemets, qui peuvent participer. Donc le lieu, c'est très important. On va peut-être parler de AD, de Black AD, dont le concert, malheureusement, ne s'est pas bien déroulé. Bon, c'est vrai qu'elle a reçu, et, entre guillemets, beaucoup de soutien, mais beaucoup de personnes également lui ont dit qu'elle avait tapé poteau. Ouais. Ben, moi, je trouvais que c'est malheureux, parce que pour une artiste qui débute, elle n'a besoin que de soutien. Tu vois? Et des erreurs, tout le monde en fait. Elle a peut-être péché en le faisant tout de suite au palais. Voilà, mais on apprend toujours. Quoi. Moi, c'est pas un échec. Moi, je n'appelle pas ça un échec. Tu vois? Et c'est une artiste qui est bien connue aujourd'hui, avec seulement Mali. Peut-être qu'elle allait un peu trop tôt en besogne. C'est possible. Elle aurait pu commencer par l'Institut français, Voilà, déjà qu'elle a été prise de couverte RFI, ça allait venir de toutes les façons. Parce que quand tu as ce prix-là, je crois que tu fais quand même pas mal de capital. Et notamment, dans, je crois, 15 ou 16 instituts français comme ça, en plus de celui de Paris. Donc c'est quelque chose qui allait venir. Comme je l'ai dit, elle est peut-être allée un peu trop vite en choisissant de le faire au palais. Voilà, elle aurait pu le faire. Dans le lieu, effectivement, c'est très important.
Vous voulez rebondir sur ces réponses.
Oui, c'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Mm-hmm. Merci beaucoup pour cette contribution. C'est une belle coïncidence parce que je vais vous faire une révélation.
Allez-y.
Black AD, j'anime une émission, La Star du mercredi soir, tous les mercredis soirs. Je peux dire entre guillemets, c'est moi qui l'ai découvert. Mm-hmm. Elle appelait à mon émission pour chanter comme une auditrice. Et je l'ai encouragée et je l'ai encadrée pendant un certain temps avec sa maman et sa famille. Après, les choses ont évolué et moi, mon temps ne me permet pas de m'investir, comme l'a dit Job, dans le développement de carrière. Ça demande une proximité de tous les temps. Donc, je donne des conseils aux artistes de manière ponctuelle. Quand je suis disponible, mon temps me le permet. Mais je ne peux pas me substituer à un vrai manager, à quelqu'un qui est vraiment là. Parce que tu es là avec l'artiste tout le temps. Tu fais partie de sa famille.
Ouais.
Donc, du coup, je l'ai accompagné au début. Quand je le pouvais, même le coaching, la direction artistique, la réflexion au niveau de ses instrus, les thématiques et tout. Mais depuis un certain temps, on n'est pas trop en contact. Sinon, je pense que cette erreur-là ne serait pas arrivée parce que moi, je l'aurais conseillé. Donc, ça rejoint en fait ce qui a été partagé sur ce plateau. Il y a des artistes super talentueux. Black AD, elle est hyper talentueuse, elle est passionnée de musique. Et c'est cette passion-là qui a fait que moi, je l'ai encouragée et que j'ai voulu l'accompagner. Donc, si cet épisode malheureux est arrivé, c'est pas grave. Hein. On a tous tapé poteau. Hein. Moi, j'ai organisé mon premier concert sur le terrain de Banagaburu au marché. Tu te rappelles de ça? Tonton Omar est venu m'aider et tout. La pluie a tout massacré. J'avais une dette de combien de francs? J'avais emprunté de l'argent avec tonton, tati, ma bourse, machin. J'avais mon premier concert quand je l'ai organisé. Je devais avoir 15 ans.
Il y avait beaucoup de chance, il n'y avait pas Internet.
Voilà, il n'y avait pas Internet, exactement. Du coup, les challenges sont différents. Oui. C'est-à-dire, quand il y a Internet, tu as d'autres défis. Et quand il n'y a pas Internet, tu as d'autres défis.
Oui.
Nous, à notre époque, c'était très difficile de pouvoir faire un studio, d'enregistrer, faire un clip. Mais on n'était pas très nombreux parce que tout le monde n'était pas assez fou pour tenter cette nouvelle aventure. Mmh. Surtout, personne n'était star. Le hip-hop même n'existait pas au Mali. Donc, il fallait commencer quelque chose. On ne savait même pas qu'un jour, ça allait donner naissance à un mouvement comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le terrain. Donc, le défi, c'est déplacer. Mm-hmm. Quand les gens disent, avant, c'était plus facile, c'était plus difficile. Non, le problème était différent. Le challenge était juste différent. Sinon, la vie, là, c'est des challenges. Si tu ne veux pas de challenge, eh ben, tu vas de l'autre côté.
Alors, monsieur Ababoukoum, vous êtes acteur culturel. Et pour l'organisation d'un concert, la communication est vraiment importante. Mm-hmm. Disons, c'est la base. Maintenant, ça se passe plus sur les réseaux sociaux, mm-hmm. notamment à travers le buzz. Comment est-ce que vous appréhendez et ce buzz-là dans l'organisation d'un concert? Est-ce qu'il faut ça nécessairement pour réussir son concert?
Bon, ça c'est une question très, comme on l'a dit. En fait, la communication pour un concert, ça dépend de l'artiste en fait.
Mm-hmm.
Il faut d'abord cibler le public, la cible, c'est ça d'abord. Maintenant, après ça, on sait comment communiquer et sur quel canon utiliser. Parce que, par exemple, pour un concert de Salif Keita, par exemple, on n'a pas besoin de communiquer dans les écoles ou cibler des jeunes, des écoles pour...
Des caravanes.
Voilà, ou des caravanes. Oui. Mais il faut cibler un public un peu plus... Voilà, qui sont... Voilà, qui connaissent bien l'artiste, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, la communication pour les artistes, c'est vraiment... Ça dépend de l'artiste pour un concert. Ça dépend de l'artiste. Si on prend, par exemple... Young Po, par exemple, c'est un jeune très talentueux. Et pour faire un concert de Young Po, on va pas partir faire la communication à la télé après le journal. Mais c'est vraiment, voilà, il faut créer du buzz, pousser l'artiste à lancer quelques pics. Ça fait que les gens vont parler de lui et c'est ce qui plaît à son public. Donc, c'est ce qui va faire venir l'artiste. Donc, la communication pour un concert, vraiment, ça dépend de l'artiste et ça dépend du moment aussi. Par exemple, si c'est un concert comme ça qui n'est pas lié à une fête, comme la fête de Tabaski ou autre, et un concert uniquement pour... organiser pour une fête, là, c'est différent. Parce que l'organisation, quand c'est lié à un événement que les gens connaissent déjà, c'est plus facile de communiquer. Il suffit juste de mettre la date, le lieu et le nom de la fête avec l'artiste. Les gens viennent, même ceux qui ne sont même pas fans, peuvent venir. Mais si c'est vraiment organiser un concert typiquement, spécialement pour l'artiste, là, il faut vraiment suivre la cible même qu'il faut toucher, et à partir de là, on peut... Maintenant, on va pas développer tout ici, mais il faut... Ça dépend de l'artiste, en fait, la communication. Voilà.
Et là, dit Diop, le buzz, est-ce que c'est payant pour l'artiste?
Bon, moi, je suis en tant que consultant en com. En tant que consultant en com, moi, je considère qu'il n'y a pas de mauvaise publicité pour un artiste. Il n'y a pas de mauvaise publicité pour un artiste. Peut-être à court terme, ça peut avoir des incidences, mais à long terme, on peut toujours rebondir là-dessus. Ça, c'est le consultant comme qui parle.
Oui.
Maintenant, quand vous interrogez le père de famille, le directeur artistique, ou alors vous interrogez, voilà, je vous dirais que tout buzz n'est pas bon à prendre. C'est-à-dire, sur votre plateau, tout de suite, nous décidons de nous mettre nus. Que Dieu nous en garde. Ça ne va pas être intéressant, mais ce qui est sûr, jusqu'en Corée, on entendra parler du studio Tamani et de votre émission.
C'est clair.
Vous êtes d'accord? Donc peut-être que si vous arrivez à rebondir là-dessus, ça va être intéressant pour le studio, mais peut-être que madame va avoir difficilement des problèmes à la maison ou avec ses enfants. Voilà, ça c'est pour caricaturer.
Oui.
Maintenant, et en ce qui concerne la communication pour un événement, pour parler de manière, on va dire, technique, ça se passe en trois temps. Après, on l'adapte, comme ça a été décrit par monsieur Boukoum. La première chose, c'est le teasing. En fait, ce qu'on appelle le teasing. Le teasing, je vous l'explique. Le teasing a pour but de créer l'intérêt, de susciter l'intérêt. C'est-à-dire que soit on balance de temps en temps, on annonce sans annoncer au fait. On se dit bientôt il va se passer ça, nanani, nanana. On se dit, on tease. C'est-à-dire qu'on titille le public par rapport à peut-être que Kodo Benake. Voilà. On donne un peu envie. Après, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le matraquage. Le matraquage, c'est-à-dire qu'on occupe tout l'espace. C'est-à-dire qu'on explique aux gens que tel jour, à tel endroit, il va se passer telle chose. Et on va chercher tout le monde. Et en ciblant, on va chercher les gens là où ils sont, en fonction de l'artiste. Par exemple, s'il s'agit de Salif Keita ou de Cheikh Tidjane Seck, peut-être qu'il va falloir aller chercher les gens dans les bureaux, à la fin du journal télé ou dans le magazine L'Essor, faire des... Voilà. C'est-à-dire qu'on occupe tout l'espace avec les différents médiums qu'il y a, avec Internet notamment. Après cette première étape, il y a une dernière étape que beaucoup d'organisateurs d'événements oublient. Ou alors le font de manière automatique, c'est donner envie. Parce qu'au-delà d'informer les gens, il faut leur donner envie.
Pourquoi
ils vont venir? Voilà, c'est là où intervient le buzz, en général. C'est là où intervient le buzz. C'est là où il faut créer un petit truc, où il faut faire une chanson, où on titille quelqu'un, on va dire, ah, qu'est-ce qui va se passer? Parce que lui, j'ai envie de voir ce qu'il va dire. Ou alors c'est là où, si tu ne veux pas forcément faire du buzz ou quoi que ce soit, tu peux faire tout simplement un truc basique, une tombola. C'est là où ce sont ces trois étapes-là qui rentrent en ligne de compte. On fait une tombola, où on dit, voilà, ou alors on dit, il y a un morceau inédit que personne n'a entendu, que vous allez entendre sur ce lieu-là. Voilà, ce sont les trois différentes étapes du buzz par rapport. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme tout se fait autour du buzz. C'est-à-dire, on commence par la fin. Sous prétexte qu'il y a, on a entendu parler de quelqu'un, on ne calcule plus si c'est quelqu'un, est-ce qu'il est prêt pour produire quelque chose de concret? Est-ce qu'il a communiqué assez pour, toucher le maximum de gens? Mais sous prétexte qu'il y a ce projecteur qui est braqué et qu'on parle de cette personne, on décide d'organiser un événement. Malheureusement, c'est ce piège dans lequel est tombée notre jeune sœur, parce qu'il y a eu RFI, parce que nanana, alors que c'était une carrière très bien en construction, qui n'a pas suivi le chemin de développement de carrière normale, mais qui, sous prétexte qu'elle a bénéficié de ce prix, on a dit, bon voilà, elle est pris RFI, donc boum, on peut prendre un palais, et donc voilà, et ça produit cet effet, malheureusement.
Alors, Issouf Kone, est-ce que le buzz a un impact sur la carrière de l'artiste?
Déjà, je pense que c'est important qu'on essaie de parler un peu de... Mm-hmm. Qu'on s'entende, qu'on ait une définition unanime de ce que c'est que le buzz. Mm-hmm. Voilà, parce que quand on parle de buzz, c'est un mot anglais, hein, mais mm-hmm. ça renvoie un peu à un bruit qui court, mm-hmm. et à une sorte de rumeur. C'est-à-dire, on fait passer le... Sociaux. Justement, on fait passer le consommateur mm-hmm. ou celui-là qui doit faire la promotion du produit. Tu vois, au lieu que ce soit ceux qui ont le produit qui doivent venir faire la promotion, ils mettent en place une stratégie qui amène le consommateur lui-même à faire la promotion, parfois inconsciemment. Voilà, donc je pourrais prendre le cas de... Déjà, Job parlait de quelque chose d'assez intéressant, le teasing, le matraquage, etc. Ça me rappelle une histoire très intéressante concernant un rappeur français du nom de Sofiane. Je parle sous le nom de... sous le contrôle de d'Amkoulel. En 2016, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé une série de freestyles qui s'appelait « Je suis passé chez So » en 2016. En 2017, il a fait un clip intitulé « Toka ». C'était un morceau qui était extrait de son album qui devait sortir en 2018. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément bloqué une autoroute. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose de dangereux en France. Ouais. C'est quelque chose de dangereux. Parce que tu crées un embouteillage, c'est possible qu'il y ait des gens malades, mm-hmm. qu'il y ait une urgence. Mais il l'a fait quand même. Tu vois, quand on le dit, une publicité en bien ou en mal, c'est une publicité dans tous les cas. Mm-hmm. Ça fait parler de toi. Mm-hmm. Et donc, il est conscient de cela. Il sait qu'il va prendre quelques mois. Voilà, sinon peut-être sursis, avec quelques millions, milliers d'euros à payer. Il le sait, il est conscient de cela. Il le fait quand même. Et au final, il sort l'album en 2018, Bandit Saleté, et c'est un succès énorme. Tu vois, et aujourd'hui, c'est l'un des rappeurs français de qui on parle le plus. Vous voyez,
sa voix est même utilisée dans les dessins animés.
Voilà. Il joue même au théâtre.
Il joue au théâtre, il est voilà. à un niveau. Voilà, donc, on ne dit pas que c'est l'exemple qu'il faut suivre.
Justement, voilà. Donc le buzz, lui, peut payer. Oui. Ouais, mais il y a aussi des buzz qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas forcément demandé. Bon, puisque le fer est chaud, on va le battre. La petite, là, Aïcha Tremblay, mm-hmm. du Burkina. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui lui tombe dessus. Personnellement, je ne pense pas qu'elle se soit tassée un jour et dit non, voilà, faudrait que. Non, non, non. Voilà, justement. En fait. C'est venu comme ça. Vous mm-hmm. voyez. Et il y a des buzz comme ça qui nous tombent dessus. Je prends également le cas de Sarkozy. Parce que le buzz, il faut qu'on le dise, hein, ce n'est pas seulement qu'en musique. Les gens ont tendance à croire que ça ne concerne que le rap. Non, non, non. Tous les domaines, dans tous les domaines, ça existe. On peut l'utiliser pour se positionner en politique. Sarkozy, en 2017, lorsqu'il disait au discours de Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, que l'Afrique n'était pas assez. Voilà. Je ne pense pas que Sarkozy voulait créer un buzz, mais c'est peut-être une maladresse, parce que l'Europe est beaucoup accusée d'avoir un discours paternaliste, toujours vouloir. Donc, on l'a vu également avec Macron, lorsqu'il parlait de la natalité en Afrique, avec les femmes qui ont 6, 7, 8 enfants, etc. Donc voilà, tout ça c'est des buzz, mais il y a des buzz qui sont orchestrés de toutes pièces, et il y a d'autres qui nous tombent dessus.
Ce sont des maladresses ou
voilà. Donc ça, justement, donc ça peut profiter, tout comme ça peut ne pas profiter, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les bad buzz. Mm-hmm. Les bad buzz, généralement, ça ne profite pas.
Ça tue ta carrière.
Justement, on l'a vu avec la marque H&M,
si.
Voilà, qui ont fait porter un t-shirt à un gamin, mm-hmm. où c'était écrit le singe le plus cool de la jungle, je crois, mm-hmm. un truc comme ça. Mais ça, par la suite, ça a suscité un tollé. Alors, on l'a vu d'ailleurs, notre ancienne première dame, Adam Bakounaré, qui avait fait d'ailleurs un livre dans lequel elle disait à Sarkozy, qui était intitulé « Petit précis des remises à cause sur l'histoire d'Afrique à l'endroit de Nicolas Sarkozy », un truc comme ça, lorsqu'il a fait son discours de Dakar. Donc parfois les buzz peuvent malheureusement être des bad buzz, et ça ne profite pas à celui qui l'orchestre. Voilà, tout comme ça peut.
Le consultant ne commence à côté. Je veux dire que c'est parce qu'ils n'ont pas engagé le bon consultant en
communication. Monsieur Ba, quelles sont les limites à ne pas franchir en termes de buzz?
En fait, en termes de buzz. La limite à ne pas franchir, c'est comme ils viennent de le dire tous les deux, mm-hmm. Diop et puis Koné, mm-hmm. ils ont vraiment mis le doigt là-dessus. Si un buzz te tombe dessus, ou que tu essaies de l'orchestrer, oui. il faut avoir un professionnel qui sait comment transformer ça en opportunité. Parce qu'en réalité, comme il a dit, il n'y a pas de mauvais buzz. Il mm-hmm. n'y a pas de mauvais buzz dans le moment où tu maîtrises ce qui se passe. Mais quand ça te tombe dessus, tu ne comprends pas, il n'y a pas de professionnel ou une équipe qui t'entoure. C'est pour cela, te lancer dans une carrière, tout seul, tu le fais lorsque tu n'as pas le choix, le temps de commencer. Mais si tu es en mesure de t'entourer d'une équipe, ce qui est de plus en plus faisable, parce qu'avec les nouvelles technologies, tu vas sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont intéressés par le hip-hop, le théâtre, la culture, qui ne sont pas forcément des artistes. Mais dont l'artiste a besoin de son équipe. permanemment. Il y a la gestion administrative, financière, la logistique, il y a plein de choses. La personne va se former. Toi, tu es l'artiste, mais l'artiste est une entreprise. Comme l'a dit Job tout à l'heure, c'est un produit. Donc l'artiste est le visage, mais il y a 20, 50 personnes derrière lui. Et sans ces personnes-là, il va nulle part. Donc chacune de ces personnes doit se professionnaliser dans son domaine. Donc là, il est entouré d'une bonne équipe. Même si un buzz lui tombe dessus, il y a quelqu'un, deux, trois personnes qui lui diront « Oh, non, mais ça, c'est trop cool. On va faire ci, ça, ça et ça. » Et on saura comment on pourra vendre plus d'albums, faire plus de place. Parce qu'on parle de moi. On parle de moi, mais qu'est-ce que j'ai à vendre? Une fois que j'ai attiré l'attention des gens chez moi, il ne faut pas que les yeux m'avalent, qu'ils me mangent. C'est toi qui dois manger grâce à ces yeux qui te regardent.
Oui, vous voulez répondre.
Et expliquer que oui. Du pire bad buzz, qu'on peut dire comme ça, du pire buzz, il y a toujours quelque chose à en tirer. Le pire exemple, c'est, comme on est dans la musique, c'est R. Kelly. R. Kelly qui a traversé, on va dire, des décennies comme le plus grand chanteur de R&B dans les dernières années de Me Too, etc. Il a été exposé au monde comme étant un pédophile, un violeur, un abuseur, etc. Il a eu le jugement, il est parti en prison. Mais son équipe derrière, R. Kelly n'a jamais vendu autant d'albums que pendant ce procès-là. Et les films, ce que les gens ignorent, c'est que les films qui ont été faits autour de sa personne ou des femmes qui ont été agressées et viennent témoigner, R. Kelly touche des droits sur ce documentaire-là. Parce que ces chansons sont utilisées et que sa maison de production a donné le droit qu'on utilise ces chansons-là dans ce film. Et étant en prison, il a organisé un concert. Il a dit parce que le droit lui permet même d'enregistrer des albums. Et il y a des gens qui, par rapport à ce buzz, ont envie, qu'ils l'aiment ou qu'ils n'aiment pas, ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. À sa sortie de prison, s'il est bien accompagné, il peut se racheter. Parce que la loi et la société le permettent. Voilà. Et parce qu'il y a toujours une version A et une version B. Après, la morale n'a pas sa place. On est en train de parler de business, on est en train de parler de carrière. Donc après, c'est pour ça que c'était juste pour illustrer ce qu'ils ont dit par rapport au buzz.
On est à pratiquement la fin de l'émission, il nous reste juste 10 minutes.
L'exemple de Job est vraiment intéressant parce qu'il a parlé d'un cas qui est vraiment immoral. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas, ce n'est pas cela la question. Mais la thématique, ce qui lui est reproché à tort ou à raison, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous, moralement, religieusement, pour plein d'autres raisons. Mais il a expliqué comment il a pu tirer son épingle du jeu. Et au finish, quand il va sortir, il peut toujours se racheter parce qu'il peut mettre en place une fondation, une institution, il va venir en aide de telle sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Tout ça. Donc en réalité, si tu transformes une mauvaise aventure et que tu sais comment gérer le buzz, tu peux faire beaucoup de bien autour de toi et beaucoup de bien à ta propre personne.
Alors, M. Abba Aboukoum, qu'est-ce qui garantit la réussite d'un concert?
La réussite d'un concert, d'abord, il faut que l'artiste travaille déjà avec une équipe bien professionnelle. On en connaît déjà. Par exemple, Sidiki, il est en train de former ses amis qui sont devenus ses agents. Et en même temps que le concert soit organisé par des spécialistes, et forcément avec un conseiller en communication. Voilà, donc, ou une agence d'événementiel. Oui. Parce que ça va de pair. Mais il ne faut pas que l'équipe qui gère l'artiste se hisse en organisateur de spectacle. Ça ne peut pas marcher. Parce que,
sauf s'ils ont été formés pour ça.
Voilà, sauf s'ils sont. Voilà, bien sûr. Voilà, parce que nous, on a été dans son équipe. Donc, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Il faut des personnes qui sont douées et qui ont l'expérience et l'expertise. Et en même temps, comme tout ce qu'on a dit sur ce plateau, choisir la bonne date, le bon lieu. Et voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça, pour vraiment que le concert puisse marcher. Et maintenant, par rapport au buzz, nous sommes dans un monde de buzz maintenant. On n'a plus le choix.
Tout le monde fait les buzz.
Voilà,
tout le monde
fait les vidéos. Maintenant,
on n'a plus le choix. Est-ce que les organisateurs de conseils tirent profit de ces concerts-là, en termes de finances?
Bon, en termes de finances, ça, c'est un sujet assez complexe, parce que les mécanismes évoluent. on va dire, j'ai pas envie de dire nous de notre temps, mais au début quand nous on commençait, c'était très simple, c'est-à-dire qu'il fallait avoir le bon artiste. À partir du moment où on a un bon artiste, on va proposer de la visibilité à des structures qui ont besoin de communiquer, qui sponsorisent, et l'événement se fait avec ce sponsoring et les tickets, on s'en sortait. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué, puisque les sponsors ont considérablement réduit leur investissement dans les spectacles. Et après, on peut discuter des raisons. Mais à côté, il y a d'autres filières qui se sont développées. Le mécénat, des personnalités, des parrains, des marraines qui arrivent, qui achètent tous les tickets ou qui décident de donner 1 million, 2 millions à un artiste, etc.
Déjà, est-ce que c'est à l'avantage de l'artiste, le fait d'acheter tous les tickets du concert?
Ça, c'est avantages, ça, c'est inconvénients. En tout cas, si le but d'un artiste, c'est de gagner de l'argent, immédiatement, qu'il y a des besoins, des envies directes, ça peut se faire. Et tout revient à une question d'accompagnement derrière, parce que tout est une question d'argent. Tout est une question d'investissement, l'artiste étant un produit qu'il faut rentabiliser. Donc tout investissement est intéressant. Après, tout dépend de ce que l'on en fait. Après, si vous avez l'habitude de vous faire acheter toutes vos places et offrir gratuitement, ne vous étonnez pas un jour quand vous allez demander à des gens de venir acheter vos places qu'ils n'aient plus envie. Il y a aussi, ce sont ces risques.
Je ne te coupe pas. Hein. Quand on t'acquiert, j'ai discuté avec un jeune homme au quartier là, qui commence du rap. Quoi. Il commence à faire du rap. Il dit non, il veut musique. Il a fait un son, là, il m'a fait écouter. Non, il veut musique. Il dit bon, pour moi, je trouve que ce n'est pas abouti. Quoi. Il y a un problème de talent ici. Il dit il s'appelle Issouf. Il dit Homo, il y a un talent de là. Il y a un de là, oui.
Voilà, tout est une question d'objectif.
Il me l'a dit clairement comme ça. Donc c'est une réalité quoi. Parce que, voilà.
Donc les producteurs de spectacles peuvent en tirer leur compte, peuvent tirer leur compte du jeu s'ils arrivent à bien manager, mais après toute une question de durée et de management.
Alors Monsieur Issouf Kone, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les concerts au Mali, comme vous l'avez dit, hein, ça s'organise déjà de façon professionnelle, mais que ça s'améliore davantage?
Bon, c'est les faits dans les règles là, simplement. Bon, je pense que je vais juste paraphraser ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà, se référer aux structures qui sont habilitées à le faire. Voilà, il y a des structures qui ont vraiment l'agrégation pour ça, qui s'y connaissent. C'est très important. Il y en a pas mal au Mali. La structure de Abou fait un excellent boulot, je trouve. Voilà, il y a beaucoup de structures comme ça. Il faut vraiment s'approcher de ces structures-là, leur parler de ce qu'on a envie de faire en termes de concert, etc. Et puis ensemble, on met en place un plan de communication qui peut faire en sorte que le concert se passe dans les meilleures conditions. C'est tout. Il faut juste s'approcher des professionnels. Maintenant, si on pense qu'on a les capacités, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ont atteint un certain niveau, qui ont beaucoup de moyens et qui décident de mettre en place leur propre structure. Ça existe beaucoup en Europe, en Afrique, partout on en trouve aujourd'hui. Donc, si on est sûr qu'on a les capacités, les moyens nécessaires pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais si on n'est pas certain, il faut s'approcher des pros. Quoi.
Et même dans ce cas, tu es obligé de travailler avec des professionnels. Si tu crées ta propre structure, tu embauches des professionnels. Donc en fait, tu as tout à fait raison, je te rejoins. Juste si vous me permettez, il y a une question que vous avez posée à Abba, vous avez demandé qu'est-ce qui garantit la réussite d'un concert. Abba a donné la réponse gentille qui rassure. Oui. Rien ne garantit la réussite d'un concert. Quand tu investis dans un concert, tu acceptes de tout perdre.
Ouais, c'est le risque.
Ah oui. C'est le secteur le plus à risque dans notre domaine musical, l'investissement dans un spectacle. C'est pour ça la règle de base, il ne faut jamais investir ton propre argent. Tu cherches des sponsors, des partenaires, c'est la règle de départ. Il ne faut jamais mettre ton propre argent, sauf si tu es un mécène. Parce que tu ne cherches pas l'argent, tu cherches le nom ou le soutien que tu veux donner à l'artiste. Donc voilà.
Alors, les artistes au Mali, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se focaliser sur des spécialistes ou bien et avoir du talent, comme l'a dit Monsieur Kone. Est-ce que le talent est forcément nécessaire?
Il faut se focaliser, travailler avec les professionnels dans le domaine, ceux qui font des clips, scènes, décors, présence scénique, direction artistique, communication. Et il faut avoir du talent. Le talent, c'est du travail. 99% de travail et 1% de ce que Dieu t'a donné à ta naissance.
Alors,
le talent, c'est du travail. Il faut bosser pour que les gens viennent te voir une fois et qu'ils viennent te voir mille fois.
C'est la fin de ce débat.
Aujourd'hui, malheureusement, c'est 3% de travail et 97% de communication.
Et voilà, c'est ça.
C'est la fin de ce débat. Le thème était « Comment réussir un concert au Mali ?» Nos invités étaient Issiaka Ba, dit Ankoulé l'enfant Peul. Il est auteur, compositeur. Il a plusieurs casquettes, comme il a dit sur ce plateau. Il y avait M. Eladji Amadou Diop, El Pacifico, animateur, producteur. Et Abba Boukoum, acteur culturel. Issouf Kone, journaliste culturel. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été coordonnée par Sekou Gadjigo. À la technique, il y avait Noun Diré et Adjara Toutraoré. Merci et à la prochaine.
What's up?